Enseigner la musique, la transmettre, la diriger et même savoir l'écouter, c'est tout un art. Il faut de la patience, de la technique, de la pédagogie et aussi parfois un petit peu de psychologie. On ne devient pas directeur d'une école de musique par hasard. Philippe Crutely a touché à la musique depuis son enfance et depuis, il a touché à toutes les musiques. Directeur de fanfare, directeur de chœur, l'ensemble vocal d'Erguel notamment depuis 20 ans, il dirige des ensembles aussi divers que le Grand Eustache ou le Groklin d'Orchestra il y a quelques années. Nous avons rencontré Philippe Crutely en l'école de musique du Jura bernois à Saint-Imier. Là, nous partageons sa passion de la musique.
Ici la musique.
On est ici à l'école de musique du Jura bernois à Saint-Imier en compagnie de Philippe Crutely. Pour partager ce large éventail musical, ça va être difficile, mais le but c'est d'y toucher un tout petit peu quand même. Est-ce qu'il y avait une volonté chez toi, un jour, de dire « dans ma vie j'ai envie de toucher à toutes les musiques » ?
Je ne sais pas si ça s'est manifesté de cette manière-là. En tout cas, beaucoup d'appétit, ça c'est sûr. Un jour j'ai eu envie de faire de la musique, j'ai entendu très jeune le Magnificat de Bach, j'ai joué du fanfare, et finalement c'était cette excitation de la musique sous toutes ses formes qui m'a attiré. Je ne me suis pas véritablement fixé sur un genre au départ. C'est la fanfare, la musique de cuivre qui m'a amené en quelque sorte dans le répertoire, qui m'a permis de faire des expériences qui se sont ensuite élargies par la suite. Et puis les expériences d'enseignement dans les écoles, au gymnase, etc., ont continué de m'ouvrir à différents styles.
Tu as commencé par le Magnificat de Bach, quand tu l'as évoqué tout à l'heure. Ça veut dire que, enfant, jeune, tu as écouté de la musique classique ?
Alors, tout à fait par hasard, parce que mon frère, qui était étudiant à l'école normale de Bienne, avait comme professeur Michel Corbeau en musique, et qu'il a un jour ramené à la maison un disque, c'était vraiment un vinyle à l'époque, du Magnificat de Bach, qui, avec Maurice André à la trompette, je me souviens de cette introduction extraordinaire de trompette.
Marquante, évidemment.
Absolument. Et j'ai entendu ça, je dirais par hasard, parce que mon frère écoutait ça, je passais par là. J'ai été scotché en écoutant cette musique et c'est pas par hasard si ce mois de décembre, à l'occasion de mes 20 ans de direction à l'ensemble vocal, nous interpréterons le Magnificat de Bach.
C'est ce disque-là, c'est la découverte de la musique qui t'a titillé et qui a dicté un jour ta profession que tu ferais plus tard.
En tout cas, si je dois relier un déclic à mon évolution musicale ultérieure, c'est ce disque, certainement. C'est l'écoute de cette musique, c'est cette introduction du Magnificat qui m'a fait toucher à une dimension dont je n'avais pas idée jusqu'alors et qui m'a véritablement transpercé.
À ce moment-là, tu habites Delémont ?
Et à ce moment-là, j'habite Delémont, avenue de la Gare 12.
Et tu vas faire de la musique pour commencer en fanfare, à la fanfare du collège de Delémont.
Voilà, le père Aubry, comme on l'appelait, passait souvent devant chez nous. On habitait en face du collège et les répétitions de la fanfare du collège avaient lieu juste en face de chez moi. Je n'étais pas encore au collège, mais il avait déjà parlé avec ma maman et puis il avait déjà, il m'autorisait à suivre les répétitions. Et je me suis glissé en quelque sorte en passager clandestin dans cette équipe et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais.
Thank you. commences par les cuivres. Tu commences la musique par les cuivres, notamment le baryton et le trombone.
Voilà, le baryton, parce que pourquoi pas le baryton. En fin de compte, j'avais tâté un tout petit peu de trompette, mais l'embouchure ne me convenait pas tellement.
On se cache mieux derrière le baryton et le trombone.
Alors peut-être, c'est bien possible, mais surtout l'embouchure est plus grande. Et ça, par rapport à mes lèvres et puis ma dentition, c'est quelque chose qui correspondait mieux. Je me suis senti simplement mieux avec cet instrument. Et puis voilà, je me souviens avoir interprété le fameux concerto pour un été d'Alain Morisot avec mon baryton dans le cadre d'un camp musical avec la fanfare du collège. Et puis ensuite, ça a été, après mon déménagement à Courtelary, la rencontre avec Pascal Eicher, directeur du Brass Band de Bienne. Ça a été le travail enthousiaste avec lui, qui m'a amené dans son ensemble, avec lequel j'ai pu entrer dans la musique, alors dans toute sa dimension, avec ses brass bands, le brass band national des jeunes aussi, et puis la participation à des concours européens à Londres, au Royal Albert Hall, dans cet univers si typique qu'est le brass band anglais, qui m'a surtout appris à lire énormément de musique, parce qu'on a dû jouer, on devait jouer énormément de répertoires. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec beaucoup de musique classique, par les transcriptions qui en avaient été faites pour nos ensembles. Et puis ensuite, c'était le conservatoire à la Chaux-de-Fonds, d'abord à l'euphonium, et puis ensuite au trombone, avec la rencontre pour moi qui a été capitale avec mon professeur Jean-Pierre Beltrami, qui m'a ouvert alors encore à d'autres musiques. Et je crois qu'à partir de là, le chemin était tracé.
Le trombone devient ton instrument de prédilection, c'est vraiment un instrument important, il y a quelque chose de magique.
Oui, alors pour moi au départ c'était aussi un choix lié à mon envie professionnelle, je voulais absolument faire des études de musique professionnelle et le phonium ne me le permettait pas à l'époque. Mmh. Et mon professeur qui était tromboniste, eh bien m'a en quelque sorte attiré vers cet instrument, ça s'est fait tout naturellement. Et c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée parce que le trombone m'a ouvert la porte à des quantités de répertoires de musique différentes, que ce soit la musique classique, la musique contemporaine, que ce soit le jazz dans les big bands, ou encore la musique ancienne avec la sackbut. Je m'y suis intéressé également de près. Autant d'univers, tous aussi passionnants les uns que les autres.
Ensuite, c'est la direction qui arrive, direction d'orchestre, direction de chœur, ce qui fait qu'à un moment donné, le trombone a été un peu mis de côté, mais j'imagine que la direction, c'est encore une autre approche de la musique, c'est encore une ouverture différente.
Oui, alors la direction, elle est venue également, je dirais, assez naturellement, mais dès le début, parallèlement à mes études de conservatoire, j'ai commencé par diriger une fanfare. C'est véritablement la meilleure pratique qu'on puisse avoir au départ. Mmh. Parce que
c'est une bonne école, hein.
Oh, je trouve que c'est une bonne école, surtout si on a la chance en plus de tomber chez des gens ouverts et sympathiques, comme ça a été le cas à la Chaux-de-Fonds, la fanfare de la Lyre, qui avait des ambitions justement d'ouverture, qui était reconnaissante de ce que j'amenais comme musique, et c'était vraiment un plaisir. Et dans ce sens-là, c'est une excellente école, c'est une école déjà techniquement parlant, de gérer les répétitions, diriger la musique, mais aussi socialement, être en contact avec des gens dont c'est pas le métier, qui ont eu toute une journée de travail derrière eux, puis qui viennent à la répétition, avec qui il faut quand même essayer de fixer des objectifs, avec qui il faut essayer de progresser. Mais c'est une aventure humaine fantastique. Alors c'est vrai que assez vite c'est venu, et puis le chœur ensuite, alors le travail avec la voix est devenu capital pour moi, central. On peut dire que c'est véritablement l'autre passion de ma vie qui a ensuite pris le dessus.
On retrouve ici Philippe Crutli à la direction de l'ensemble vocal d'Erguel dans un enregistrement regroupant des musiques de Duke Ellington. Un concert sacré ou devrais-je dire un sacré concert. C'est-à-dire que la voix, c'est un instrument que tu découvres par la suite ?
En tant qu'instrument, oui. J'ai beaucoup chanté à l'école, et ça, je dois rendre hommage à mon maître de musique à l'école secondaire, Paul-André Schwab, qui nous a beaucoup fait chanter. Et je crois que ça a été capital dans les choix que j'ai faits plus tard et dans la passion que j'ai développée pour cet instrument. Et puis très vite, c'est vrai que cet instrument est devenu pour moi une espèce d'évidence, une porte d'entrée de nouveau dans des répertoires absolument extraordinaires. La musique ancienne, là je faisais encore un lien avec mon trombone ancien, la sackbout, mais aussi la musique romantique avec le grand répertoire symphonique, tous ces éléments-là qui m'ont de plus en plus passionné. Et l'ensemble vocal avec lequel maintenant je travaille depuis 20 ans et avec lequel j'ai pu réaliser de merveilleuses expériences musicales.
L'ensemble vocal d'Erguel, avec lequel tu vas donner un concert en ce mois de décembre pour évoquer le 20e anniversaire de la direction de l'ensemble vocal.
Voilà, c'est une manière de faire un petit clin d'œil. Peu de gens le savent, mais voilà, maintenant, je l'ai dit, le Magnificat de Bach ayant été pour moi un élément déclencheur, il me tenait à cœur de redonner à cette occasion-là cette œuvre. Et ça sera donc le cas les 21, 22, 23 décembre. Et puis nous ferons également le Dixi Dominus de Handel, une autre grande œuvre baroque. Et ces deux œuvres vocales encadrant le concerto pour la nuit de Noël de Corelli, qui sera joué avec le Moment Baroque, un orchestre avec lequel je collabore maintenant assez régulièrement.
Je le disais tout à l'heure, on est ici à l'école de musique du Jura bernois. Quand tu entres dans ce bureau, comme directeur de cette école, qu'est-ce qui se passe ? Pour toi, c'était quelque chose d'important parce qu'il y a la volonté de transmettre la musique aux jeunes générations, puis il y a aussi la volonté de créer des événements, de créer des projets où on peut faire participer beaucoup de monde.
Ah oui, il y a tout ça. Pour moi, une école, c'est un lieu magique. Ça doit être un lieu magique. Une école de musique, en plus, c'est un lieu d'accès aux rêves qui doit développer l'imaginaire, qui doit permettre à des enfants de découvrir la richesse de la musique, qui doivent leur permettre de se dépasser également. Et c'est vrai que lorsque l'école de musique du Jura bernois a été, le poste de directeur a été mis au concours, ben, je m'y suis intéressé. J'étais enseignant au gymnase de Bienne. J'ai travaillé pendant 15 ans avec passion au gymnase pour l'enseignement de la musique. Et puis, il me paraissait intéressant de passer à autre chose, d'entrer dans ce domaine peut-être encore plus complet au niveau musical, qui m'a permis de travailler alors avec d'autres catégories d'âge que les adolescents, les enfants, dès l'entrée en initiation musicale. C'est des petits poussins encore à ce moment-là. Et puis, on les accompagne tout au long de leur progression jusqu'à la fin de leur parcours non professionnel. Certains font des certificats, d'autres vont, après avoir fait un certificat, vont poursuivre des études professionnelles. D'autres, par contre, vont simplement entrer dans une vie professionnelle et dans laquelle la musique gardera une place importante. Oui, l'école de musique, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu culturel aussi, c'est un lieu qui doit stimuler, qui doit être un lieu de dialogue aussi, qui doit constituer une possibilité de partenariat avec l'école publique, avec les institutions culturelles, les centres de culture. C'est un carrefour extraordinaire.
Par ici, la musique.
Il y a toujours cette magie quand on est ici, même en tant que directeur, parce que directeur d'une école de musique, il y a la partie musique, mais il y a une partie administrative aussi.
Alors oui, ben, naturellement, je mentirais si je disais que qu'on serait dans une espèce d'extase permanente, en lévitation absolue. Il y a évidemment, bien sûr, des réalités qui sont bien fortes. L'aspect financier, voilà, l'école de musique, c'est un budget de 2,5 millions, c'est 1000 élèves, une collaboration avec une trentaine de communes du Jura bernois, des subventionnements communaux, cantonaux, des écolages à gérer, donc toute une infrastructure administrative. Mais j'ai une équipe absolument magnifique autour de moi, de gens passionnés, dévoués à leur métier. Et je n'ai pas véritablement l'impression d'être submergé par l'administratif. Mmh. J'ai plutôt l'impression que les choses se complètent, que tout est nécessaire pour que simplement on puisse fonctionner en bonne intelligence et que les cours puissent se donner dans de bonnes conditions, que les professeurs puissent avoir du plaisir dans l'exercice de leur métier et que les enfants puissent trouver de la stimulation.
Et puis le cadeau, ce sont les projets musicaux tels que Momo ou d'autres que l'on peut faire ici grâce aux élèves, grâce aussi à des enseignants, à des anciens élèves qui sont devenus enseignants, musiciens, qui composent, qui créent. Et finalement, on peut faire tourner la roue ainsi.
Ah oui, alors ça c'est absolument passionnant, c'est ce qui donne du sens à ce que nous faisons, c'est ce qui nous donne l'énergie, la force de recommencer. Mais c'est vrai que le projet auquel tu faisais allusion, Momo, nous a occupés pendant près de 2 ans avec des étapes différentes, des états d'âme aussi contrastés. Il y a eu naturellement du doute, des doutes, il y a eu du découragement, il y a eu de l'enthousiasme, pour finalement aboutir à un résultat qui a dépassé nos espérances. C'est une création qui a regroupé une cinquantaine d'enfants de toute la région avec l'orchestre de l'école de musique, lui-même composé d'élèves et de professeurs. Nous avons sillonné le Jura bernois avec cette œuvre qui a débouché sur un DVD, la musique originale de Claude Rossel, l'adaptation et la mise en scène de Jordan Veilla. Ouais, autant d'éléments qui ont stimulé toute l'école en réalité et qui nous donnent vraiment envie de recommencer.
Philippe Crutli, on a parlé de l'école de musique du Jura bernois, tout à l'heure on a parlé de l'instrument, du trombone, des rapports avec la fanfare. Il y a la direction. Finalement, je pense que l'une des premières fois où je te découvre en direction, c'est avec l'orchestre de Grock. Grock, encore quelqu'un de la région qui a été un musicien fou. Je ne sais pas si ce sont là les premières rencontres avec Jean-François Bovard, mais il y a aussi les musiciens qui se croisent entre le Grand Eustache, l'orchestre de Grock et autres. Il y a toute une émulation là autour.
Oui, absolument. La rencontre avec Grock par l'intermédiaire de Laurent Dirksen a été marquante, c'est vrai, parce que j'en avais entendu parler, mais pas plus que ça, et puis finalement je m'y suis intéressé.
Sans connaître la richesse des partitions.
Ah voilà, sans connaître la richesse de son univers, tout simplement, de la finesse, la polyvalence aussi de l'artiste, et puis effectivement la richesse de ses musiques, qui ont ensuite été orchestrées avec beaucoup de talent par Claude Rossel. Je crois que la version ultime, parce que nous avons eu plusieurs versions intermédiaires, d'une version symphonique d'abord, et puis cette version que je dirais ultime du Grockland Salon Orchestra, qui me paraît la plus aboutie, celle qui correspond le mieux à l'esprit de Grock, nous a permis de collaborer avec des artistes magnifiques. Et c'était de nouveau un lieu d'échange, un carrefour des rencontres. Il y a eu Jean-François Bovard, que je connaissais depuis longtemps, mais avec qui ça a été magnifique de collaborer dans les derniers mois de sa vie, puisqu'il allait nous quitter peu après. Et puis là, il m'a passé le relais à ce moment-là pour son orchestre, qui était le Bovard Orchestra, qui est devenu le Grand Eustache, et avec lequel, depuis une dizaine d'années, je dirige des créations de compositeurs de l'association Eustache, que ce soit Antoine Auberçon, Julien Monti, Stéphane Riondel, Popol Lavanchy, qui lui aussi est un des grands maîtres du Grand Eustache, le père fondateur, auquel nous nous réjouissons de rendre hommage l'année prochaine à l'Octogone à Puy. Ça sera les 12 heures popoliennes. Et ça sera, disons, le moment de tirer un grand coup de chapeau à cet homme magnifique.
Là, il y a un CD, Sensorient, c'est un des derniers projets du Grand Eustache.
Oui, c'est un des derniers projets qui fait l'objet d'une collaboration avec un soliste afghan, Khaled Arman. C'était l'idée de s'ouvrir sur les musiques orientales, mais pas simplement en les évoquant comme ça au passage, mais en essayant de susciter une vraie rencontre avec un artiste qui vit dans cet univers-là. De demander à nos compositeurs de créer une musique qui puisse constituer un terrain de rencontre avec ce soliste. Et ben, le résultat, c'est Sensorient. C'est un spectacle que nous avons maintenant donné plusieurs fois, que nous allons redonner au Forum Merin en février, à Stand d'été à Moutier en juillet prochain, et puis au Festival du Monde Arabe de Montréal, puisqu'on vient d'y être invité. Et c'est aussi une forme de reconnaissance que nous apprécions énormément au sein de l'association Eustache, parce que c'est la première fois qu'un de nos spectacles est appelé à être donné
à traverser
l'Atlantique. Et pour les personnes qui ont cru à cette aventure, qui façonnent cette aventure de l'association depuis 10 ans, autour de la création, de l'improvisation, et bien pour toutes ces personnes-là, c'est une magnifique reconnaissance.
Il y a un autre personnage que tu as rencontré, c'est Pascal Auberçon. Et finalement, la rencontre s'est passée très rapidement.
Oui, alors Pascal Auberçon, je l'ai rencontré il y a quelques mois, en fait, puisque j'ai eu le plaisir de collaborer avec lui pour le concert de son 60e anniversaire à l'Auditorium Stravinsky à Montreux. C'était au mois d'avril, puisqu'on m'a demandé de remplacer au pied levé le chef d'orchestre qui devait mener ce projet. Et ça a été l'occasion pour moi d'entrer en contact avec l'Orchestre des Jeunes de Suisse Romande, qui accompagnait Pascal Auberçon pour ce récital de chansons qui retraçait en fait toute sa carrière depuis ses débuts, des chansons qui ont été réarrangées par Antoine Auberçon, son frère, alors un ami que je connais depuis longtemps, et c'est lui qui m'a amené dans cette aventure, dans cette galère. Et puis, ben voilà, le résultat, c'est ce concert du 60e anniversaire qui fait l'objet d'un DVD qui est sorti ces jours. Et là, cette rencontre, ben voilà, c'était de nouveau une rencontre avec un musicien qui fait partie pour moi de cette famille de personnages exceptionnels, que ce soit Jean-François Bovard, Paul Lavanchy, Jean-Pierre Beltrami, Pascal Auberçon, voilà, il a travaillé avec eux, il les connaît, enfin, on est dans la même famille avec un artiste exceptionnellement doué, un homme d'une générosité absolument incroyable. Pas toujours facile à vivre, mais il le sait et on en plaisante ensemble. Mais un artiste qui a marqué les jeunes avec les jeunes qui ont travaillé avec lui par son exigence aussi et
par ici la musique
absolument exceptionnel.
Les palaces dorés, les grands hôtels crâneurs te filent sous le nez à t'en serrer le cœur. Ça te fane l'esprit de voir autant de fric. Tu veux une autre vie plus folle et plus magique. Tu veux une autre vie sous les plaies de musique. Jamaïca, Jamaïca, ravale ton chacha. Jamaïca, fume un peu de ganja. Jamaïca, fais bien claquer tes doigts. Seul issue et seul choix, chante. Et tu t'en sortiras, fais un air, un air. Ta vie, elle s'étangue et s'attarde ce distant. Des mômes meurent camés sur des plages d'argent. Comme un couteau levé à la gorge du ciel. Des foules d'affamés noyées sous le soleil. Des foules d'affamés chantent des pleurs au pluriel. Jamaïca, Jamaïca, ravale son crachat. Jamaïca, fume un peu de ganja. Jamaïca, fais bien claquer tes doigts. Seul issue, seul choix, chante. Et tu t'en sortiras, sauf un insigne, bien à ça.
Est-ce qu'il y a un concert qui t'a marqué dans tous les concerts que tu as dirigés, que tu as vécu ou que tu as vu, et qui est toujours un souvenir exceptionnel pour toi, Philippe Krutli?
Question délicate. J'ai envie de dire c'est toujours le dernier, mais non, mais au-delà de ça, bien sûr, il y en a un peut-être auquel je me réfère le un peu plus souvent, c'est la messe en si de Bach à l'abbatiale de Belley. C'est vrai que ça a été en 2002 un événement exceptionnel de par l'intensité de la musique en elle-même, le public venu en masse, 600 personnes amassées dans cette abbatiale. Il y a une ferveur autour de cette œuvre.
C'était avec l'ensemble vocal d'Erguel.
C'est ça, avec l'ensemble vocal d'Erguel, et puis toute l'énergie qui s'était déployée autour de l'ensemble, avec tout notre comité, le chœur qui avait construit une scène dans cette abbatiale, enfin tout ce qu'il avait fallu mettre en œuvre pour pouvoir donner cette musique dans de bonnes conditions. Et alors c'est vrai que le moment du Dona Nobis Pacem, c'est exceptionnel.
Hey!
si on te pose la question, la base même de la musique, c'est quoi à ton avis? Elle vient d'où la musique?
Moi, c'est une vibration qui éveille l'émotion. C'est une vibration qui rejoint le monde intérieur d'une personne, et c'est la vie mise en musique, peut-être, c'est la vie mise en vibration. Et la base de la musique, pour moi, ça reste au départ le rythme. Ça reste cet élément primaire, fondamental. Dès le moment où on met ensemble deux balancements, dès le moment où on essaye de marcher, de danser, de bouger, la musique peut naître. C'est ce moment qui est pour moi absolument magique.
Est-ce que tout le monde est musicien?
À sa manière, tout le monde est musicien. Tout le monde peut ressentir la musique. Tout le monde peut être sensible à la musique. Il y a naturellement une dimension éducationnelle. Alors c'est vrai que des univers familiaux sont plus favorables que d'autres parce qu'ils permettent à l'enfant de baigner dans un environnement musical et d'y devenir sensible. Mais on peut éveiller cet intérêt également plus tard chez l'enfant ou chez le jeune. Tout le monde est sensible à la musique d'une manière ou d'une autre. Je ne crois pas qu'on a très peu de gens qui sont amusicaux.
C'est la fin de Par ici la musique pour aujourd'hui. Une émission très dense en compagnie de Philippe Crutli, directeur de l'école de musique du Jura bernois. Et puis, directeur de l'ensemble vocal d'Erguel, a signalé des concerts à ne pas manquer tout prochainement avec le Magnificat de Jean-Sébastien Bach et les Concertos Grosso pour la nuit de Noël de Corelli. Ce sera le 21 décembre au Temple de Tramelan à 20h, le 22 décembre à la Salle de musique de la Chaux-de-Fonds à 20h et le dimanche 23 décembre à la Collégiale de Moutier à 17h.